respect de leur comportement et bien appliquer pour une monde qui change.
Comprendre ce qui va se passer en cas de changement climatique,
fait de moi une observatrice du genre humain.
Et maintenant, à voir les cratères à la surface des astéroïdes.
Je travaille sur des données qui sont à des millions de kilomètres. Et là, ils sont dans mon ordinateur.
Acteur de science.
Acteur de science.
Acteur de science.
Dans les coulisses de l'OSU.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode à la recherche d'acteurs de science. Je suis Marie-Charlotte et cette fois, en traversant les couloirs du CEREJ, laboratoire de géosciences, j'ai rencontré Johan Kennel, un concepteur qui s'ignorait jusqu'alors. Bonjour Johan.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université en géophysique. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène à endosser le rôle de concepteur dans votre métier aujourd'hui ?
C'est à la fois le mot enseignant et chercheur de mon métier parce que il se trouve que pour la recherche, on est amené à concevoir des nouveaux instruments pour faire des mesures inédites. Donc c'est vrai que dans le domaine de la géophysique, on a de quoi faire parce qu'on utilise beaucoup d'instruments physiques. Pour n'importe quelle thématique, il y aura toujours besoin de faire des mesures inédites. Il y a des mesures standards, mais aussi des mesures inédites. Donc pour l'aspect recherche de mon métier, je suis amené à concevoir, pas tout seul, avec l'aide d'ingénieurs généralement, de nouveaux instruments et aussi des protocoles de mesure. Même des théories, on conçoit des théories dans des articles scientifiques pour expliquer nos mesures. Bah, parfois, il faut qu'on aille un petit peu aux limites de ce qui est accepté généralement. Après, pour l'aspect enseignement, c'est pareil. Il m'est arrivé de temps en temps de concevoir des instruments pour l'enseignement en géophysique. Et puis, de manière plus théorique, on conçoit aussi des enseignements parce qu'on se base sur des données existantes, des données bibliographiques, mais il faut organiser l'enseignement et le faire passer aux étudiants. À la fois de manière pratique pour les instruments géophysiques sur le terrain, par exemple, et de manière théorique pour l'enseignement, on conçoit. Donc, c'est en ce sens qu'effectivement, j'ai un rôle de concepteur.
D'accord. Donc, être enseignant-chercheur, c'est être un concepteur à la fois de façon théorique et à la fois de façon pratique.
Tout à fait.
Et est-ce que vous pouvez me décrire justement un de ces aspects de la conception dans un projet, dans quelque chose que vous avez mené récemment ?
En ce moment, je travaille en particulier sur les structures d'impact de météorites. Sur Terre et sur d'autres planètes, il y a des cratères, c'est la structure la plus commune, mais sur Terre, il y a aussi beaucoup de structures, enfin de cratères qui sont érodés, donc on ne voit plus la trace. Ils peuvent toujours affleurer en surface, mais qui peuvent être aussi enfouis. Et en ce sens, ces structures-là sont difficiles à détecter. Et la géophysique, qui est l'étude du sous-sol de manière indirecte, c'est toujours des mesures physiques qui ne vont pas détruire le sol. On ne va pas creuser, on ne va pas forer. La géophysique, c'est une manière de révéler ce qu'il y a à l'intérieur du sous-sol. Pour certaines structures, en fonction de la taille, on a besoin typiquement de mesures de champ magnétique. Et c'est moi ce qui m'intéresse particulièrement dans le domaine de la géophysique. Les mesures de champ magnétique se font avec un instrument qui s'appelle un magnétomètre, qui peut être de différents types. On peut les porter sur soi, on peut aussi les placer sur des avions et sur des satellites aussi. Il se trouve que pour des structures de l'ordre de la dizaine de kilomètres de diamètre, c'est des structures que nous on étudie en ce moment, les structures d'impact. L'acquisition des mesures de champ magnétique peut se faire au sol avec l'homme, mais c'est long parce que 10 km de diamètre, c'est une grande surface. Du coup, on pourrait faire avec des mesures par avion, mais c'est une mission qui coûte cher dans ces cas-là. Et en plus, on est souvent à plus haute altitude que ce qu'on voudrait parce que plus on s'éloigne en altitude de la structure, moins on a de signal. Donc en fait, il faut une échelle intermédiaire, disons la centaine de mètres maximum, pour couvrir tout le cratère. Et comme en ce moment, il y a tout un marché et tout un développement des drones aériens notamment, notre équipe et moi-même, on a essayé de penser à un instrument, un magnétomètre, qui puisse être placé sur un drone. Il fallait plusieurs critères pour ce magnétomètre. Il faut qu'il soit autonome. Autonome pendant plusieurs dizaines de minutes, voire heures. Mais bon, les batteries ne sont pas actuellement capables d'aller plus loin que, disons, l'heure d'autonomie. Il faut qu'il soit léger pour être mis sur n'importe quel drone, parce que l'idée, ce n'est pas de développer le drone, c'est de développer que le capteur et qu'il soit adaptable à différentes plateformes. Et puis le dernier critère, c'est qu'il ne soit pas trop cher à développer. Donc ces trois critères nous ont amené à se diriger vers un instrument particulier, un capteur particulier qu'on a acheté et adapté à ce magnétomètre un capteur d'attitude, parce qu'en fait, le magnétomètre, suivant son orientation, il n'a pas du tout la même sensibilité. Donc, il faut connaître parfaitement son attitude à n'importe quel moment de mesure. Et on a pu adapter un capteur d'attitude associé au magnétomètre et un capteur GPS pour avoir la position en temps réel. Le problème étant que le magnétomètre, il est sensible à toute perturbation électromagnétique. Donc il faut quand même laisser une certaine distance entre le capteur lui-même et tout ce qui est autour, c'est-à-dire les batteries, le GPS et puis le capteur d'attitude. Donc en ce sens, c'est un exemple concret qu'on a développé récemment. Donc on a un prototype actuellement qu'on va tester sur des drones aériens, mais aussi sur des drones, des bateaux télécommandés par exemple, ou éventuellement des sous-marins.
D'accord. Donc c'est finalement vous avez développé et conçu un drone pour éviter d'avoir à quadriller, on va dire à pied, une zone assez importante, ou éviter d'avoir à acheter un avion ou louer un avion pour faire le même travail.
Exactement, sauf qu'on n'a pas développé le drone. On a développé le capteur qui va pouvoir se mettre sur n'importe quel drone. Notre idée, c'est vraiment l'utilisation sur le terrain pour nos projets, mais si on peut partager cet instrument avec d'autres équipes, parce qu'on peut mettre d'autres capteurs, des capteurs photographiques, etc. Voilà, ça c'est tout. C'est un projet concret. Nous, c'est les structures d'impact qui nous intéressent, mais il y aura d'autres applications.
Et alors, dans tout ce travail de conception, mais aussi de travail en équipe, qu'est-ce que vous préférez et comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui vous a mené à ce travail, si on remonte un petit peu dans le temps?
Si je remonte dans le temps, c'est à l'université que j'ai pris goût aux sciences de la Terre et de l'univers. J'ai eu la chance de continuer en doctorat pendant 3 ans, où j'ai travaillé sur des données de champs magnétiques de la planète Mars. À partir de là, c'est donc la planétologie. C'était tellement en dehors de la société actuelle que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller un petit peu dans des choses un peu extraordinaires, quoi. Et donc, c'est là où je me suis dit, je pense pas pouvoir faire autre chose, parce que si je fais autre chose de standard, ça va pas me plaire. Alors que là, j'ai découvert que y a toujours du travail, quoi. D'ailleurs, j'en accumule depuis des années et j'ai toujours du travail pour jusqu'à ma retraite. Et donc, c'est en doctorat que j'ai vraiment eu l'idée de continuer dans la recherche académique. Et donc après, de fil en aiguille, j'ai fait un contrat postdoctoral en Allemagne. Et là, j'ai travaillé plus sur les données satellitaires, mais plus sur la Terre. Et ça me passionnait aussi. Donc après, j'ai candidaté sur ce poste d'enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université, où il y avait quelque chose de tout à fait nouveau, c'était l'aspect terrain. Sachant qu'avant, j'étais plutôt derrière mon ordinateur. Après, on allait dans des congrès, on partageait nos connaissances scientifiques, mais il n'y avait pas de terrain et d'acquisition de données. Ou alors, c'était à distance sur des satellites. Donc là, sur ce poste en géophysique au CEREJ, il y avait un aspect de terrain et d'acquisition de données, ce qui m'a permis, du coup, au fur et à mesure des années, de découvrir qu'il fallait s'adapter au terrain. Donc, je vous ai parlé des structures d'impact et des cratères d'impact, mais on fait aussi du terrain pour des structures, des zones plus petites, en archéologie, par exemple. On travaille avec les archéologues parce qu'on peut faire des mesures physiques sur des sites potentiellement archéologiques. Et donc, de ce point de vue-là, il faut s'adapter aussi. Donc la conception, c'est aussi pour différentes échelles de mesures que je me suis adapté et qu'on a dû concevoir des choses. Et on peut parler aussi jusqu'à l'échelle de l'échantillon. On a aussi travaillé avec mon équipe pour concevoir des instruments qui permettent de mesurer des petits échantillons, de faire des cartes de champs magnétiques de petits échantillons. Donc c'est le micron, l'échelle du gros échantillon, l'échelle du mètre ou de la dizaine de mètres pour l'archéologie, l'échelle du kilomètre, voire plus, pour les structures d'impact. Et puis après, on peut aussi travailler. Moi, j'ai fait ma thèse sur le champ magnétique de Mars, où il y a des anomalies de champs magnétiques qui font plusieurs centaines de kilomètres. Donc c'est vraiment multi-échelle. C'est ça qui m'a intéressé aussi. On a des instruments qui existent dans le commerce, qu'on peut acheter pour nos équipes, mais en fait, à chaque fois, on s'adapte. C'est ça qui m'intéresse, c'est la nouveauté.
Donc l'adaptation, c'est ce qui vous intéresse, mais vous êtes parfois aussi confronté à des difficultés, tout ne marche pas forcément comme prévu, et le métier de recherche en général amène beaucoup de questionnements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des questions sans réponse, hein, quelque chose sur lequel vous avez buté, auquel vous n'êtes pas encore capable de répondre de façon technique précise ?
Oui, si je vais dans le concret, moi je travaille sur les anomalies du champ magnétique des planètes et notamment de la Terre. Et l'échelle de la centaine de kilomètres de long, hein, en longueur d'onde, pour des anomalies de champ magnétique terrestre, ça commence à être difficile à expliquer. Parce qu'en fait, on touche Donc l'anomalie de champ magnétique va être créée par une source de roche aimantée. Et à cette échelle-là, la source est forcément à plusieurs dizaines de kilomètres sous nos pieds. Et là, malheureusement, on a peu de forages qui vont au-delà de la dizaine de kilomètres sur Terre. Il y en a un, voire deux peut-être. Et en fait, on ne connaît rien de la composition minéralogique. Alors, on a des idées, bien sûr, par la géophysique notamment, mais on n'est jamais allé récupérer des échantillons aussi profonds. Donc, l'explication d'anomalies de champ magnétique de grande longueur d'onde reste un domaine où on propose des choses, mais il n'y a aucun consensus. Typiquement, donc là, j'ai récemment encadré un doctorant, qui travaillait sur une anomalie qui se trouve en Mauritanie. C'est même plus large que la Mauritanie, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est un endroit où il y a des roches très anciennes. Et il y a quelques affleurements de roches très très riches en fer qui sont d'ailleurs exploitées. Nous, on pense, à l'issue de ce doctorat, par modélisation, par mesure sur des échantillons, par conceptualisation, parce qu'on est obligé d'aller dans la théorie des fois, on pense que ça vient d'une croûte terrestre très enrichie en fer à cet endroit-là. Donc, on pense, mais en fait, il faut faire d'autres mesures ailleurs. Il faut faire d'autres modélisations, c'est pas fini quoi. Donc actuellement, c'est une des questions, et c'est pas que cette anomalie, il y a d'autres anomalies larges, comme en Centrafrique, c'est pareil, c'est la même problématique. Il y en a aussi en Russie, etc. Donc dans mon domaine, c'est vrai que expliquer les grandes anomalies de champs magnétiques, c'est une question qui est actuellement sans réponse. Après, il y a plein de domaines où on a des réponses, mais il y a d'autres. Des équipes qui vont contredire, qui vont dire « Ah non, mais cette réponse, elle n'est pas bonne. Il faut faire attention en science. » Voilà, il y a toujours... c'est pas forcément accepté par tout le monde.
Toujours rester critique.
Voilà, il faut toujours avoir l'esprit critique.
Très bien. Et alors, pour finir, si je vous demande de qualifier votre métier en un seul mot, qu'est-ce que vous me répondriez ?
Un adjectif, j'ai le droit.
Vous pouvez.
Passionnant.
Passionnant, très bien.
Voilà.
Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Johan.
Eh bien, de rien. Au revoir.
Et c'est tout pour aujourd'hui. En espérant que vous avez apprécié cette découverte des coulisses du Cerej, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.